Madame, monsieur, chers clients, il est possible que le moyen que j'utilise aujourd'hui pour m'adresser à vous vous étonne. Mais connaissant le sort trop souvent, hélas, réservé aux circulaires, je me suis permis, en toute simplicité, de venir vous entretenir personnellement, directement, chez vous.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Auditeurs et auditrices de Canal B, bienvenue dans Béchamel Tchatcha qui ce soir rendra un petit hommage, évidemment posthume, à ce vieux farceur de Roger Corman, hein, qui vient de tirer sa révérence le 9 mai dernier, et par capillarité à la maison de production American International Pictures, à laquelle il était plus ou moins affilié, et qui eux ont sorti certains des plus mauvais films de l'histoire du cinéma, mais dont les bandes originales recèlent parfois de petites pépites. Et pour me seconder dans cette tâche ardue, j'ai fait appel au fils prodigue. Ah oui, c'est le grand retour de celui qui est capable de se taper les pires nanars afin de pouvoir dire des choses incroyablement intéressantes sur des sujets dont tout le monde se fout. J'ai nommé Arnaud Kiki. Arnaud Kikoi, Arnaud que oui. Bonjour à toi.
Bonsoir Jean-Claude.
Voilà, donc bonjour à toi Arnaud que toi. Et ensemble, nous allons vous distiller de la musique formidable et des informations évidemment du même tonneau au cours des 60 prochaines minutes. Alors, bonne émission, les amis, c'est parti! peut-être un peu répétitif, mais récréatif, avec de la grosse fuzz. Il s'agissait à l'instant, vous l'avez tous reconnu, vous les aficionados du garage et des guitares électriques, de Davy Allan and the Arrows, qui signait là la bande originale du film Les Anges Sauvages de Wild Angels, avec donc Davy Allan, que l'on surnommait affectueusement Monsieur Double Manche, hein, puisqu'il avait une guitare absolument improbable avec un double manche, voilà, que j'ai eu l'occasion, si je peux frimer un petit peu, de le voir en concert, moi qui déteste les concerts, et c'était terriblement ennuyant. Okay. Ennuyeux. Voilà, les Wild Angels avec Peter Fonda, Nancy Sinatra, Bruce Dern, qui a été remis au goût du jour par Monsieur Tarantino. Voilà, pour ce film signé Roger Corman et produit donc par lui-même et la bande du American International Picture, ouais, dont tu vas nous parler un petit peu mieux, sans bafouiller, mais comme moi, par exemple.
Un des rares films dont on va passer la bande originale ce soir, qui est vraiment de Roger Corman.
C'est ça.
Un garçon donc né en 1926, il me semble, et mort le 9 mai dernier.
Ah, moi, je veux des anecdotes croustillantes,
assez
attention.
Assez productif, puisqu'il a fait quand même... il a 55 films au compteur, et il a produit 385 autres films d'autres réalisateurs, sans intérêt non plus.
Oui, on pourrait quand même citer à son actif la petite boutique des horreurs avec Jack Nicholson, film de science-fiction un peu pourra avec une grosse plante qui mange tout le monde, Saint Valentine's Day Massacre, l'homme avec les yeux de rayon X ou des choses comme ça. C'est dire si c'était de la série B, voire de la série complètement Z.
Le pape de la pop était son surnom.
Et ah bah ça fait plaisir. Le pape du pop, ça me rappelle quelque chose. En tout cas, avant d'aller plus loin dans la
médiocrité.
Ah non, ça on peut aller très loin. D'ailleurs, je vois ce qui se passe dans les studios. On parlera évidemment des deux cocos qui ont créé American International Pictures, mais et qui ont débuté en 54. Mais ce qui va nous intéresser, on commence en 63 avec les films de plage, hein, qui ont enchanté pas mal d'adolescents de l'époque, et surtout c'était la Californie, c'est-à-dire les biscottos, les
filles, le soleil,
c'est ça,
les
bikinis, enfin bref, c'était assez superficiel. Il n'empêche, la musique est très ensoleillée comme il se doit, et on commence avec justement Annette Funicello et la reprise de California Sun, qui, si je ne m'abuse, avait été composée par les Rivieras ou repris par les Rivieras. En tout cas, le morceau fait toujours plaisir et qu'on écoute de suite dans Béchamel Tcha-Tcha.
You see a handsome little guy wherever you go. They walk that walk, they talk, they stomp, they surf that surf. Yeah, they're out there having fun, surfing in the California sun. Thank you.
tuning up his car. Gonna hit every strip, both near and far.
Dragon USA.
He's got the fastest time now, USA. And he's first off the line now. Moving down the Texas way, everywhere he's Dragon USA. He holds the records in the fastest.
Frogs lay hundreds of millions of eggs every year. What would happen if they all hatched? American International Pictures presents Frogs, the story of the day nature strikes back. What strange sequence of events unleashed such a slithering, slimy tidal wave of fear? Why did these particular people on that particular island face this particular kind of terror? See Frogs, starring Ray Milland, Sam Elliott, Joan Van Ark, Adam Rourke, and Judy Bass. Frogs, an American International picture, in color, rated PG. Frogs, today the pond, tomorrow the world.
I'm gonna go get it.
Et voilà, la musique superficielle mais néanmoins frétillante se poursuit avec après les Annette Funicello qui nous interprétait la reprise de California Sun, extrait donc de Beach Party, produit par donc American International Picture. On a pu entendre encore une fois avec le morceau Dragging USA, extrait de, je te le donne en mille, mon cher Arnaud.
Beach Party en 64, réalisé par William Asher, et qui était très très bon. Moi, je trouvais ça très très bien.
Oui, c'est pas mauvais. Après, ça reste assez facultatif. On est bien d'accord.
C'est pas la
chanteuse la plus émouvante du monde. On est bien d'accord. Et puis à l'instant, je ne sais pas si c'est le générique, mais en tout cas, ça figurait dans la bande originale du film Pajama Party, Beach Ball.
Exactement. Un film, donc on a commencé par Beach Party en 63, qui était le premier des 7 films de plage que produiront American International Pictures, avec donc Annette Funicello qui officiait au Club Mickey Viertois à la même époque.
Bah absolument.
Donc interdiction de se montrer dénudé. Pourtant, petit rappel sur l'American International Picture, Nicholson et Erkoff, qui étaient les producteurs exécutifs, et donc Roger Corman, dont on parle ce soir, et Alex Gordon, qui étaient les principaux réalisateurs, avaient une formule, la formule Erkoff, pour réussir un film, A-R-K-O-2-F, Action, Revelation, Killing, Oratory, des dialogues mémorables, Fantasy, et bien sûr, Fornication.
Je ne t'écoutais pas du tout puisque
mais c'est pas grave.
Je suis sûr que c'était passionnant.
Ça
en fait,
tombe particulièrement bien parce qu'ils ont amélioré leur méthode au fil du temps et ils ont déclaré que pour réaliser un film réussi, il faut savoir que premièrement un jeune ado regardera tout ce qu'un ado plus âgé regardera. Deuxièmement, un ado plus âgé ne regardera rien de ce qu'un jeune ado regardera. Troisièmement, une fille regardera tout ce qu'un garçon regardera. Quatrièmement, un garçon ne regardera rien de ce qu'une fille regardera. Donc les gars,
eh bien je regrette pas d'avoir pas écouté. Mais
vous écrivez un scénario sur un mec de 19 ans et ça devrait tout à fait rouler.
Très bien. Moi, je rajouterais que pour les American International Pictures,
ça va être chaud à dire.
ça va être assez difficile, surtout à cette heure-là. En tout cas, leur motto, c'était un petit peu pas d'argent, pas de star et pas de script, en gros. Quoi. C'est dire si c'était vraiment une maison de production assez pérave, mais qui ont quand même sorti des films désormais cultes. Donc après Annette Funicello, je rajouterais sur Annette Funicello, puisque c'était quand même, comme tu l'as dit, une égérie, si on peut dire, du Club Mickey. Monsieur Walt Disney n'était pas du tout content qu'elle fût...
Mais moi non plus.
Non, mais ça, on est bien d'accord. Mais par contre, il avait plus de pouvoir. Mais malgré tout, il n'était pas content qu'elle soit récupérée par l'American International Picture pour chanter des conneries en bikini, en fait. Hein. Elle avait 19 ans, mais bon, non. Le Club Mickey, ça restait assez propre. Enfin bref, hein, voilà, ils sont un petit peu brouillés avec Monsieur Walt Disney.
Et donc,
à cette époque-là,
pas le droit de montrer son nombril. C'était ce qu'il avait décidé, Monsieur Walter.
C'est ça, bah, comme tous les dogmatiques, comme tous les mecs en merdeur, comme tous les talibans. On poursuit avec encore des films de plage, mélangés à des films de science-fiction, de fantômes, Ghost in an Invisible Bikini. C'est bien ça, je ne me trompe pas.
En 66, réalisé par Don Weiss, exactement. Donc en fait, la spécialité, c'était pas que les films de plage, c'était aussi les films un peu avec des fantômes, enfin vraiment tout ce qui est plus mauvais. Et là,
c'est
ils se sont dit, eh ben on va tout mettre ensemble. Et
ils ont eu bien raison. Enfin, c'est vite dit. En tout cas, là, on va retrouver le Bobby Fuller Four. Bobby Fuller qui a très mal fini, puisqu'il a fini brûlé pour une histoire.
Étouffé dans sa voiture.
D'adultère. Non, brûlé carrément.
Ah bon, je savais pas.
Ah bah oui, il a été quand même complètement brûlé. Il a sorti quelques très 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 bons morceaux d'ailleurs.
Le fameux I Fight the Law repris par les Clash, évidemment.
Par les Clash, c'est pas mon morceau préféré, mais il l'a fait en tout cas. Là, ce que je te propose et ce que nous vous proposons finalement, c'est Swing a Muffin, extrait donc de Ghost dans un bikini invisible. On écoute.
Business, they say. Monkey business, I say.
We'll be right back. this lot. All squiggling in unison.
They're not squiggling, they're
saying.
When you find you're in trouble, need help. On the double,
one thing,
just remember to do. Let yourself go.
Let yourself go.
Yell Geronimo.
Geronimo.
That's when I come to run to you.
Hey, what are you looking for under a tombstone in broad daylight?
Shh, you'll scare her away.
Scare her away? Who? What? What can you scare away here in a cemetery?
My ghoul friend. She's the ghost in the invisible bikini.
People say, boy, you don't know how to live. The only thing you do in life is taking that pill. You gotta have one thing make your life worthwhile. And find a little girl who's nothing but wild. And give her loving.
Give her loving from the bottom of your heart.
Give her loving.
Give her loving from the very start.
Give her loving.
Give her loving as long as you may live.
Cause that's what it's like to give. I knew that I had missed something right from the start. I had a bitter, empty feeling deep in my heart. Found a little girl to give my love to. Could I be when I got nothing to do but give her loving?
Give her loving from the bottom of my heart.
I give her loving.
Give her loving from the very start.
I give her loving.
Give her loving as long as I may live.
Because I find what it's like to give. Oh, listen to the boy now. Oh, look it up, hey, man, look it down, yeah. Oh, come on, one more time, yeah.
Et un petit peu de garage frat rock pour terminer cette petite série qui avait débuté donc avec le Bobby Fuller Four qui n'a pas lésiné non plus sur la guitare fuzz. Donc extrait de Ghost in an Invisible Bikini. Je ne sais plus qui a réalisé ce chef d'œuvre.
Don Weiss, c'est un type qui est quand même poursuivi à la télévision avec des séries comme Alfred Hitchcock présente, La Quatrième Dimension, Starsky Hutch, Chips et Highway 50.
Bon, donc tout ce qu'on aime en fait, en quelque sorte.
Que
tout ce qui est régressif.
C'est un peu notre héros sans qu'on le sache.
C'est ça.
Et à noter qu'il y avait Boris Karloff qui a joué dans ce film Ghost in the Invisible Bikini. Ils ont
C'est pas facile, hein, tu vois, hein, toi-même t'as du mal.
Trop de consonnes.
C'est ça. Voyelle. Alors, et après, à moins que tu aies quelque chose à dire, c'est toujours extrait de Ghost in an Invisible Bikini. Il s'agissait, vous l'avez peut-être reconnu, de Nancy Sinatra qui accompagnait toujours du Bobby Fuller Four avec le morceau Geronimo. Voilà. Et puis là, à l'instant, donc les Kingsmen, ceux qui ont popularisé un petit peu Louis, hein, encore que tout le monde l'a fait, mais ils nous interprétaient Give Her Loving, extrait de là du film, encore un film de plage totalement pérave, à savoir How to Stuff a Wild Bikini, dont tu vas nous parler brillamment.
Pas du tout, parce que là, on attend vraiment le fond, il n'y a rien à dire. Un film de William Asher en 65, je crois que c'est le 7e. Et dernier film de plage. Ils ont continué après, ils ont envoyé nos héros à la montagne. Un film qui s'appelait Ski Party, dont on aurait pu passer un morceau. Il y avait les Famous Flames et James Brown qui jouaient dedans aussi. Mais finalement, on a dit que non.
Que non. Voilà, on arrête avec les films de plage. Par contre, on attaque les films d'espionnage et d'espionnage totalement pérave là aussi.
Espionnage.
Exactement, puisque on va retrouver qui a réalisé ce film-là, je ne sais plus non plus.
Norman Turok.
Alors le premier, je ne sais pas, parce que moi je vous propose le Dr. Goldfoot en The Bikini Machine.
Et c'est bien lui, en 65. C'est un
donc celui qui faisait déjà des conneries avec Elvis Presley.
Exactement.
Voilà, moi j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais j'ai vu le deuxième, on en parlera tout à l'heure. Tu as peut-être vu ce film.
Il est largement, pourtant il est très mauvais, mais il est largement meilleur que le deuxième.
C'est dire, en tout cas, les Supremes, qui est donc le fameux groupe de Détroit avec Diana Ross, s'en sortent plutôt mal. Plutôt bien, pardon, lapsus, je ne sais pas.
Pas du tout révélateur.
Non, pas du tout, puisque le morceau s'intitule justement, comme de juste, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, qu'on écoute de suite dans Béchamel. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
He just missed the dial.
Et oui, deux pour le prix d'un. Nous avons pu entendre dans Béchamel Tcha-Tcha, par ailleurs, les Supremes qui nous interprétaient le thème du film sorti en 65, si je ne m'abuse, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine, mettant en scène un Vincent Price plus ou moins inspiré. Et le deuxième, parce que c'était tellement mauvais qu'ils se sont dit, allez, on va faire chier le monde, on va en faire un deuxième avec Dr. Goldfoot and the Girl Bombs. Que celui-là, je l'ai vu.
Et alors, c'est vraiment nul.
C'est vraiment incroyable.
C'est quand même Mario Bava qui a fait ce film.
Exactement.
Qui a réalisé 2 ans plus tard un film largement meilleur, Danger Diabolique.
Oui, qui est plus
rigolo quand même.
Oui.
Parce que là, c'est vraiment le fond du fond, quoi.
C'est pas terrible, on est bien d'accord. Moi, j'aimais beaucoup ce genre de film. Fut une époque, mais j'avais pas encore vu des choses meilleures.
Et puis surtout qu'il existe une BO italienne de ce film.
Exactement, ouais.
Enregistrée par Lalo Gori. Gori, je sais pas comment dire.
Lalo Gori.
C'est son j'ai pas entendu la version de ce film, mais j'ai écouté son travail sur d'autres films, c'est sans intérêt.
D'accord, bon bah on le passera pas en tout cas. Alors en l'occurrence il s'agissait des Sloopies, donc probablement un groupe de gonzesses de studio, hein, les Sloopies, totalement inconnus au bataillon. La BO est assez moyenne, voire mitoyenne, je dirais même, mais qui recèle quelques morceaux très très sympathiques, dont on va vous passer un autre extrait. Si on n'a pas rien d'autre à dire sur cette BO, tu me fais des signes, non, je ne veux absolument rien dire là-dessus.
C'est vraiment très mauvais, c'est nul.
Mais on reste dans le film d'espionnage.
On reste dans le mauvais.
Dans le film d'espionnage, parce que figure-toi que le tandem de Monsieur Samuel Arkoff et James Nicholson, qui étaient donc les gros pontes du American International Picture, allaient piocher un petit peu chez les Rital, hein, qui parfois prenaient carrément des péplums ou des films de science-fiction pérave pour refaire totalement les dialogues, ça coûtait pas cher, mais aussi des Italiens qui ont été produits par ces deux jeunes gens fort sympathiques et aux dents longues, parce qu'ils ont quand même gagné pas mal d'argent, hein, malgré tout, avec leur cochonnerie. Là, j'imagine qu'il va s'agir de ça, puisque alors moi je connaissais pas cette BO là, de quoi s'agit-il? Le compositeur s'appelle Carlo Savina.
Ouais, moi non plus je connaissais pas, j'ai aucune information sur ce film là.
Ah bah c'est dommage, parce que je comptais un petit peu sur toi pour relever le niveau.
Pas du tout, figure-toi. Le morceau s'appelle Urlo di Paura, l'hurlement de la peur. Je parle absolument pas du soutien.
Mais si, c'est très bien, c'est très bien.
Elle est un film de 66 tourné par Luciano Martino qu'on écoute maintenant.
Donc très très agent secret et très jazz qu'on écoute de suite dans Béchamel Tcha-Tcha. Si j'arrive à appuyer sur le bon morceau et. Voilà, on est bien d'accord.
Thank you.
Et de la musique qui fait plaisir. J'espère que
j'apprécie à mort. Je suis vraiment, j'apprécie à mort.
Voilà, donc on avait débuté avec Monsieur Carlo Savina, qui qu'il puisse être, avec Urio di Pura, film italien, mais produit par les American International Pictures. Et on a retrouvé, Dr. Goldfoot and the Girl Bombs. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais c'est pas grave, ça s'enchaînait très 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 bien, puisqu'on retrouvait les Mad Doctors, encore un groupe de studio pour ce Dr. Goldfoot and the Girl Bombs avec le morceau de Golden Bomb.
Et figure-toi que le film italien, je pense qu'en fait c'est une production italienne qu'ils ont distribuée aux États-Unis, parce que figure-toi que...
Alors, Non, mais je suis tout oui, je t'écoute. Je suis bouche bée.
L'American International Picture distribuait également des films étrangers.
Mais bien sûr.
Aux USA, et des films français. Et figure-toi qu'ils ont distribué Les Barbouzes de George Lautner en 64.
Sans blague. Hein.
Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy.
Oh, les pauvres, les pauvres Américains.
Et Guerre secrète de Christian Jacques en 66 sur un scénario de Philippe Bouvard. Incroyable. Donc, il y a un lien entre Philippe Bouvard
et Roger Corman. International Base. Mais c'est formidable. On est là pour apprendre des choses. En fait, dans cette émission.
On les apprend. Et pour revenir à Dr. Goldfoot et toutes ces conneries, le Bikini Machine, il est bien aussi pour le générique qui est très très cool, un générique en pâte à modeler, un peu comme on a pu voir en France après, avec, je pense que s'appelle ce truc-là avec la pâte à modeler qui roulait dans tous les sens.
Chapeau.
Exactement. Sauf que c'est évidemment les pieds de Goldfoot, les pieds en or de Monsieur Goldfoot, et c'est super cool le générique.
C'est pas les vrais pieds de Vincent Price.
Mais pas du tout, figure-toi.
Ah d'accord. En tout cas, oui. Évidemment, c'est très pop, c'est très joli, mais au point de vue scénario, c'est quand même assez léger. On est bien d'accord. Tous ces films de cette époque-là, c'est comme ils disaient très bien en fait dans leur introduction, les Monsieur Harkoff et Nicholson, James, hein, non pas Jack. Oui, c'est ça. Pas de script, pas de star et pas d'argent en fait. Hein. Quoi qu'ils en ont quand même gagné beaucoup. On arrête avec les films de d'espionnage ou d'espionnage, comme tu le disais si bien.
Et on veut des motos.
On envoie des motos, pas tout à fait, pas encore.
Pas encore. C'est plus. Je veux des motos.
C'est plus des stock cars en fait. Okay. C'est plus un. Alors celui-là, je l'ai vu aussi. Il va s'agir du film, donc toujours American International Picture, Thunder Alley, où c'est des gens qui ont des problèmes avec des nanas, qui boivent beaucoup d'alcool et qui font des courses de stock cars et qui ont des accidents parce qu'ils conduisent comme des cons. Voilà, la BO de Thunder Alley est évidemment merveilleuse parce que là on commence à arriver en 66-67 avec beaucoup de fuzz guitare. Moi, ce que je te propose de cette BO, ça va être deux morceaux, mais pour commencer, un groupe appelé The Band Without a Name, puisqu'ils n'ont pas voulu donner leur nom à la postérité parce qu'ils avaient peut-être trop honte. En tout cas, le morceau s'intitule comme de juste, hein, le thème de Thunder Alley, qu'on écoute de suite, hein, si j'arrive à retrouver les boutons malgré mon état. Je crois que c'est celui-ci. On écoute ça de suite. Eh ben oui.
Yeah. Grand Canyon du Colorado.
Le Grand Canyon du Colorado, le GMC.
Vous connaissez?
Le GMC.
Vous le connaissez?
Non, pas du tout. Pas du tout, non, je ne connais pas le camion du Colorado. Les camions que je connais, c'est les Berliers, la Savienne et le Renault.
Eh ben oui, tu voulais de la musique de Bikers. Eh bien, voilà, nous y arrivons après la musique de Stock Car, hein, puisque les Américains ont toujours ce côté enfantin chevillé au corps. Ils aiment bien jouer avec leurs petits joujoux, leurs petites bagnoles qui ressemblent quand même à des vraies voitures. On est bien d'accord. Ils aiment bien les casser aussi. C'était un petit peu le cas de
comme
de,
toi.
Oui. Moi, je fais pas exprès, par contre. Thunder Alley. Voilà, un film réalisé, c'est réalisé par qui
cette... Par Richard Rush. Figure-toi que Richard Rush, c'était un réalisateur américain fasciné par les 400 coups de Truffaut et qui a réalisé le premier film américain de la nouvelle vague américaine, Too Soon to Love, en 60, et qui a...
Bah ça, c'était pas le cas. Hein,
où on voit la première apparition de Jack Nicholson à l'écran. Donc, il a réalisé, évidemment, ce Thunder Alley dont on parle, et aussi Angel on the Wheel, Psych Out, Savage Seven.
Psych Out, qu'on écoutera d'ailleurs, puisque cette émission, je tiens à vous le signaler, sera en deux parties, parce qu'il y a tellement de merveilleuses BO.
De merde, je voulais dire.
C'est ça que nous allons faire ça en deux parties.
Et donc, il a réalisé aussi en 80 The Stuntman, le cascadeur, donc, nominé aux Oscars, mais aussi le film Color of Night, qui a remporté le Golden Raspberry Award, le pire film de 94. Ceci dit, et je demanderai à Britney à tour de vérifier, le magazine Maxim a pourtant classé le film comme ayant la meilleure scène de sexe de l'histoire.
Eh ben écoute, je veux bien te croire sur parole, mais je dois admettre que j'ignore de quoi tu parles. Voilà. Donc The Band Without a Name avec le thème de Thunder Alley, enchaîné, toujours extrait du même film, avec Monsieur Eddie Beram avec la Riot on Thunder Alley. Et puis à l'instant, nous étions là avec... On a quitté les bagnoles pourries pour nous retrouver avec...
Des motos pourries.
Des choppers avec les Devils Angels. On retrouve quand même de futurs stars, hein, puisqu'il y a monsieur John Cassavetes qui joue dedans avec son petit casque de pilote d'avion. On retrouve Mimsy Farmer, hein, je ne sais pas si elle se fait violer dans ce film-là, puisqu'on se rappelle
qui rappelons-le, vend des fleurs en France actuellement.
Ah bah là tu nous l'apprends, parce que moi je l'ignore. Et quel genre de fleurs? Des cactus ou...
Des mimosas.
Ça doit être ça. En tout cas, Mimsy Farmer qui a tourné internationalement, puisqu'elle a tourné dans des cochonneries donc de American International Picture.
Dans Mort
et dans Mort, et puis
dans Blade Runner,
dans La Traque de Monsieur Leroy, qui est un film épouvantable,
et mais très bon,
mais très bon au demeurant, et notamment dans Les Anges de l'Enfer, donc Devil's Angels, avec John Cassavetes, où voilà, on retrouve toujours ces futures stars qui allaient évidemment devenir extrêmement importantes. La musique était signée, Davy Allan and the Arrows, et c'est avec eux que nous allons nous quitter, puisque nous allons retrouver eh bien le film avec lequel nous avons commencé, à savoir les Wild Angels, les anges sauvages, qui mettaient en scène donc Peter Fonda, qui d'ailleurs a eu une pub incroyable, puisque comme il était drogué comme un coin, la presse s'est empressée de relayer cette information de la plus haute importance, qui a fait le succès de ce film en 66. Nancy Sinatra, évidemment, elle était blanche comme neige, on est bien d'accord. Moi, ce que je vous propose, c'est Midnight Rider de toujours Davy Allan.
Alors, comme on a un peu de temps, si tu veux meubler un petit peu, je peux te raconter trois anecdotes sans intérêt.
Raconte-moi.
Figure-toi que le
scénario
était écrit par Peter Bogdanovich, dont Roger Corman.
La dernière séance, chef-d'œuvre.
En retour, financera le premier film, l'excellent Targets, en 68. C'était intéressant.
C'était super. Mais merci pour cette information de meublage.
Je dois avoir d'autres trucs à te raconter. Figure-toi que le film Wild Angels, le critique du cinéma Leonard Maltin a qualifié le film de bien après environ 24 bières.
Oui, c'est un petit peu le cas, hein, parce que franchement, c'est pas non plus Easy Rider, c'est quand même un peu pérave. Mais on écoute quand même la BO signée Davy Allan et ses amis.
Cruising around.
Et c'est ainsi, chers petits amis, que nous allons nous quitter avec trois extraits du film de Wild Angels, les anges sauvages, mettant en scène Peter Fonda au meilleur de sa forme, Nancy Sinatra, idem. Et évidemment, on remercie chaleureusement notre ami cinéphile ou cinéphile. On remercie Sidney Poitier ici présent
qui a regardé ces films de merde.
C'est exactement. Plus que moi en tout cas, ça c'est sûr, qu'on va retrouver j'espère la semaine prochaine.
Alors la semaine prochaine non, je ne serai pas là.
Ah c'est dommage.
Mais la semaine d'après.
Ah bah parce que moi je continue
tu continueras tout seul, c'est ta vie.
Je continue le American International, ce sera beaucoup plus psychédélique.
Voilà. Et figure-toi qu'on pourra faire même une émission après, parce que je pense que c'est René Château, figure-toi, qui est mort cette année, qui a distribué cette production en France.
Eh ben écoute, c'est super. Merci à toi Jean-Claude. On se retrouve donc pas la semaine prochaine. Enfin moi si, peut-être si tout va bien. Salut. Bye bye.
Les Allemands. Ben oui, les Allemands.
Ich bin ein Berliner.
Le samedi 25 mai, Canal B fête ses 40 ans et l'émission Aus Berlin fête ses 15 ans au bar Désordre à Rennes. Pour l'occasion, Aus Berlin fera son émission en